c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information.
Bonjour, c'est RLP Business.
Bonjour et bienvenue sur RLP Business, sur RLP, votre émission sur l'environnement économique et professionnel de la Dordogne. Et ailleurs. Aujourd'hui, nous allons parler agriculture. Nous sommes avec la coordination rurale. Nous en parlons des agriculteurs. C'est quand même un sujet extrêmement d'actualité. Nous avons avec nous monsieur Alain Quéral, agriculteur à Saint-Cernin de la Baude, vice-président de la CR24. Monsieur Quéral, bonjour.
Bonjour.
Nous avons avec nous Florence Salien de Saint-Méard de Gurson, membre de la CR24. Florence Salien, bonjour.
Bonjour.
Nous avons Cyprien d'Hautefeuille, agriculteur à Issier-Jacques, troisième vice-président de la Chambre d'agriculture. Monsieur Cyprien d'Hautefeuille, bonjour.
Bonjour.
Et la technique aujourd'hui est réalisée par Carolina. Carolina, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons entamer, bon, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite là. Alors, on entend la FNSEA, on entend les jeunes agriculteurs, on entend la coordination rurale, et vas-y que ça manifeste, et que ça dit que ça s'arrête, et que ça revient, et que ça repart, et que les gens et tout. Qu'est-ce que c'est que ce boxon ? Monsieur Quéral, dites-nous déjà, qu'est-ce que c'est que la CR24 et pourquoi de l'extérieur, on n'y comprend plus rien ?
Donc vous avez cité, ce sont des syndicats.
Oui.
Des syndicats. Donc vous avez le premier que vous avez cité, c'est le syndicat historique qui a un peu plus de 70 ans, qui en fait est le premier syndicat agricole qu'on avait en France. Ensuite, vous avez les JA qui est une émanation de la FNSEA, qui donne un complémentarité sur la partie jeune. Ce sont les jeunes de la partie FNSEA en fait, et qui se sont scindés en deux groupes. Après, il y a la Confédération paysanne, qui est un autre syndicat plus politisé gauche. Et après, vous avez la Coordination rurale, qui est le dernier syndicat qui a été créé suite aux manifestations de la nouvelle PAC qui a été faite en 1990. Donc, ce syndicat a démarré dans les années 92. Il s'est constitué officiellement en 95. Donc, je fais partie des anciens à l'origine. Et au fil du temps, on a essayé, d'exister et de défendre nos idées, nos valeurs, des valeurs qui sont d'une agriculture, on va dire, plus familiale, plus respectueuse du monde rural, de l'environnement, de tout. C'est la vraie agriculture comme on la connaît, comme on espère la penser chacun. Donc, de gens qui produisent, qui s'engagent, qui sont responsables, qui font des efforts pour améliorer les productions et qui sont au plus près du public pour un produit sympa, voilà, la vraie vie. Après, les autres formules de syndicats sont différentes, ils défendent des idées différentes qui sont, par exemple, la FNSA, c'est plutôt l'agro-business avec l'export, tourné vers l'extérieur.
Les grosses sociétés, les gros producteurs,
les grosses unités de production, qui ont une vue beaucoup plus d'ensemble mondialisé.
C'est pas forcément un intérêt que notre petit indépendant local.
Voilà. Et après, d'accord, vous avez la plus petite exploitation, la toute petite exploitation qu'on retrouve souvent à la Confédération paysanne, qui est une particule de toute petite exploitation qui sont presque vivrières, où c'est compliqué de vivre. Et voilà.
D'accord.
Grosso modo, c'est schématisé, mais voilà. Et puis la reste dernier, c'est le MODEF qu'on a dans les Landes, mais qu'on n'a pas chez nous.
Ok. Monsieur Cyprien d'Hautefeuille, vice-président de la Chambre d'agriculture, donc encore un autre organisme. Est-ce que tous ces représentants des agriculteurs, là on vient de l'évoquer un petit peu, demandent effectivement la même chose et défendent les mêmes intérêts ? Est-ce qu'ils sont ensemble ?
Alors, sur le principe premier, oui, on retrouve un mot d'ordre. C'est de vivre de son métier.
D'accord.
S'il y a bien quelque chose,
c'est un bon point de départ,
qui nous rejoint tous, c'est de vivre de son métier. Après, chacun a des méthodes différentes ou des techniques différentes, mais c'est la base. Et c'est ce qui nous unit tous, c'est qu'on puisse vivre. Et ce qui est quand même un peu, on le voit de toutes ces manifestations, on est obligé d'aller manifester pour pouvoir vivre du métier. Et c'est là où sont un peu les aberrations, sans parler d'un syndicat ou d'un autre. On est obligé d'aller manifester, de sortir les tracteurs, de gueuler, de faire des pétitions, de faire tout ce qui est possible de faire pour uniquement vivre de son métier et travailler sans qu'on nous en mette. On ne fait pas des manifestations pour faire grève, on fait des manifestations pour travailler.
Ok, Florent Salien, sa mère de Gurson, membre de la CR24. On a tous très bien compris dans le pays, en fait, que l'agriculteur, on avait un problème. On a compris qu'on s'attaquait en plus maintenant à des... quand on a des animaux, des bêtes, généralement, en plus, ce sont très souvent des lignages. Ça vient d'il y a un certain temps. On n'achète pas un poulet à Intermarché pour le faire pondre. Généralement, nos ancêtres l'ont mis. Enfin, il y a vraiment des choses qui se mettent en place. On est en train d'un petit peu tuer tout le monde. On a compris qu'il y avait des problèmes actuellement. C'est vraiment la crise, c'est vraiment l'urgence, là?
Ah oui, c'est vraiment l'urgence. Aujourd'hui, on va pas aller dire à un éleveur qu'on va tuer ses vaches et qu'on va lui remplacer par de l'argent. Aujourd'hui, la lignée, elle est depuis déjà des années. Aujourd'hui, lui annoncer qu'on va tuer ses vaches et lui remplacer par de l'argent, je suis pas sûr que ça lui fasse très plaisir.
On en avait reçu un ici, qui avait des vaches qui faisaient de la pouponnière, donc qui n'étaient pas destinées à l'alimentation. Et ils sont venus, ils lui ont abattu tout le cheptel, donné 500 balles par vache, et elles sont parties à l'alimentation. Donc elles ne devaient pas être si malades que ça. Hein. On l'a vu, ça je suis témoin de ça.
Oui, tout à fait. Après, voilà, aujourd'hui, outre le fait qu'on lui donne de l'argent pour l'indemniser, il y a quand même... Enfin, ces vaches, ils se lèvent pour s'en occuper. Et un laitier ou un éleveur, ou, il a ses vaches, ça fait partie de son exploitation, ça fait partie de sa famille.
Et il ne pourra pas les refaire, génétiquement,
ça voilà, on a beau lui remplacer par de l'argent, ça ne sera jamais les vaches qu'il avait. Ça, il faut bien le prendre en compte.
Alors, ok, monsieur Alain Kéral, là, pourquoi est-ce qu'on abat les bêtes en ce moment partout là? Qu'est-ce qui se passe?
Les bovins, comme d'autres productions, ovins, les canards et tout, on est passé dans un système, en fait, au lieu de soigner, eh bien, on a trouvé la solution d'éliminer. Mm-hmm. Donc, c'est vrai qu'on a des problèmes de parasites, de maladies, c'est vrai qu'on a tout un tas de phénomènes.
Parce que c'est plus actuel qu'avant. Est-ce qu'il y a toujours eu des parasites ou est-ce qu'il y a des épidémies récentes?
Alors, il est certain qu'il y a une évolution par la mondialisation, il y a une évolution, et par le climat, il y a une évolution en fait de toutes les maladies qui évoluent sur la planète, qui est, en fait, qu'elles se déplacent et elles investissent d'autres lieux. Ça, c'est un des points qu'on constate. Mais les maladies ont quand même existé depuis longtemps. Moi, je me rappelle jeune et tout, il y avait aussi, malheureusement, on en parlait moins parce que c'était un peu plus atypique. Maintenant, ces maladies sont là. Ces maladies, elles nous contraignent fortement, hein, puisque les choix de notre administration et de notre gouvernement, c'est le système de l'abattage pour éliminer au lieu de soigner. On aurait pu simplement imaginer que la recherche, la science fasse son boulot pour en fait trouver des moyens plus pertinents de soigner. On aurait fait ça avec le Covid, on ne serait pas nombreux sur Terre.
Oui, alors j'espère qu'on ne fera pas pareil avec les êtres humains, parce que moi j'ai une grippe par an et j'ai pas envie qu'on abatte tout le bâtiment. Bon, passons, on va revenir plus sérieux.
Non, mais la comparaison est exactement cela.
D'accord, ok, donc on comprend bien comme ça, d'accord. Cyprien, dans ce feuille-là, on entend un certain nombre de choses par rapport au vaccin, notamment. On vous fait vacciner les animaux, là? Qu'est-ce que c'est?
On fait vacciner, c'est la demande qui a été faite, oui, que les doses de vaccin soient là, en tout cas pour la DNC. Alors le gouvernement s'est engagé dans le quart sud-ouest à le faire. Alors je crois qu'ils en ont fait une bonne partie, notamment dans les départements du sud-ouest de la France, pas jusqu'à chez nous. Mais ce qu'on demandait, c'est que tous ceux qui voulaient les vaccinés et accès aux doses de vaccin. Pour le moment, c'est pas le cas.
On entend des trucs hallucinants sur ces vaccins. On entend qu'il y a des notices qui disent que si jamais on se pique avec un vaccin pour les canards, il faut aller à l'hôpital parce qu'on peut perdre la main. Donc on se demande ce qu'il y a dans ces trucs-là. On entend passer quantité de choses sur les réseaux sociaux.
Il faut prendre du recul aussi. Hein.
D'accord. Donc c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, trois, en tant que professionnels, là, ces vaccins, qu'est-ce que c'est? C'est utile? Il y a un doute? Qu'est-ce que c'est?
C'est normal qu'il y ait une défiance. En fait, quand on voit quelle est la réponse du gouvernement par rapport à la crise agricole, en règle générale, et qu'ils disent on s'appuie sur le côté scientifique, etc., moi je veux bien l'entendre. Mais si ça ne répond pas au problème, alors qu'on dit que c'est scientifique, mais ça ne répond pas au problème, évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui émettent des doutes.
Non, c'est vrai qu'il y a des cas qui se révèlent après la vaccination.
Apparemment, il y a des cas, je ne sais pas trop dans le doute comment ça s'est passé. Je ne sais pas si elle a répondu après la vaccination.
Parce qu'on entend tout, jusqu'à la fuite de laboratoires espagnols.
Oui, mais il y a de tout, mais il y a une défiance. De toute façon, il y a une défiance en règle générale. Okay. Et l'État, qui devrait être le garant, n'entretient pas un climat de confiance.
Donc vous n'avez pas forcément confiance aujourd'hui envers les institutions historiques?
Ah bah non, parce que sinon on ne serait pas dans la rue.
Hein. Non, il faut le dire, on va pas être démon dessus. Vous n'avez pas confiance, mais si
on avait confiance dans le gouvernement, il nous dit quelque chose, on se dit il va respecter son engagement.
Ouais. D'ailleurs, les engagements de l'an dernier, ils ont été respectés?
En fait, le gouvernement, on ne peut pas dire qu'il ne répond pas. Il dit c'est le dialogue. On dialogue avec le gouvernement, ce n'est pas un problème. Oui. Sauf qu'il n'entend pas ce qu'on veut, il n'entend pas ce qu'on lui dit. Il écoute, mais il ne l'entend pas. Ou alors, il ne veut pas.
Ou il ne peut pas.
Ah bah oui, mais qu'il le dise. Vous remarquerez qu'en agricole, on n'a pas de cap clair.
Oui.
Je vais donner un exemple. Un exemple tout bête. Il y a eu des suppressions par l'ANSES des AMM de cuivre, donc des molécules phytosanitaires de cuivre. Il y en a eu 21. Il y en a 21 en France homologuées. Il y en a eu 19 qui ont été supprimées. Donc, depuis le mois de juillet, depuis septembre, on alerte par des motions en chambre d'agriculture, directement par la chambre d'agriculture, par la préfète, par le préfet de région. Personne n'a eu de retour du ministère de l'Agriculture sur ça. C'était au 1er janvier qu'il fallait une décision, avant le 1er janvier. On n'a eu aucun retour du ministère de l'Agriculture. C'est-à-dire que soit ils laissent pourrir la situation, soit ils n'ont pas le courage de dire ça ou ça, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas de vision claire en agriculture. On ne sait pas où l'État, qui est le pouvoir régalien, qui doit donner les directions, l'État, il n'y a pas de direction claire. Et donc, évidemment, ça donne des défiances envers l'État.
D'accord, donc ça c'est dit. Florent Salien, agriculteur. Ici, on interview beaucoup de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, de personnes. Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas quelque part aussi victime d'une surréglementation, de contraintes? Et lorsqu'on dit qu'on importe des choses qui viennent de l'extérieur, est-ce qu'ils ont les mêmes contraintes que vous? Est-ce que vraiment vous êtes à égalité avec les autres?
Ah non, bien sûr, on n'est pas à égalité. Et c'est là où il y a...
Il faut le dire, ça aussi.
Il y a un problème, c'est que aujourd'hui, la France veut être plus blanc que blanc et veut imposer des normes qui sont pas égales, si on parle sur l'échelle européenne, qui sont pas égales aux autres pays. Et c'est là où on a un gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut que la France soit plus blanche que blanche. Par contre, on va faire rentrer des produits de l'étranger qui n'ont pas les mêmes normes que nous. Et du coup, ça crée des tensions sur les produits aujourd'hui qu'il y a sur le marché. Oui, ça, c'est sûr.
D'accord. Donc, vous, en fait, pouvoir embaucher quelqu'un, et ça vous coûte le double de ce que vous lui donnez, grosso modo, au niveau de la masse salariale.
1,8.
Comment ?
1,8.
Oui, d'accord. Donc j'arrondissais, mais effectivement, c'est ça, c'est 1,8, 1,9, ça dépend de la tranche de salaire et autres. Et avec les minima de rémunération que nous avons en France, qu'on critique pas, c'est tant mieux pour ceux qui sont français, tout ça. On vous impose de pas utiliser tel ou tel produit.
Voilà.
Et puis après, on fait venir des trucs ukrainiens. Là, on parle de faire venir des choses du Brésil ou de l'Argentine. Alors, j'ai des amis en Argentine et au Brésil, ils sont vivants, mais c'est pas les mêmes réglementations.
C'est pas les mêmes réglementations. Et aujourd'hui, nous, on nous demande de pas utiliser plein de produits. Mais en face de ça, on peut pas être compétitif parce que comme vous dites, à l'étranger, ils ont pas les mêmes salaires, ils ont pas les mêmes produits. Et aujourd'hui, ça crée des disparités et on peut pas avoir la même. On doit être compétitif, il faut avoir les mêmes règles en face, quoi.
Oui, monsieur Kéral.
Oui, je vais essayer de préciser un peu plus. Si on prend par exemple le problème du Mercosur, qui est donc la question de fond, si on se compare au Brésil, il vous suffit de regarder l'émission qui avait été faite en 2018, à l'époque c'était TF1. Cette émission, elle filmait une situation d'une exploitation là-bas, où on a plus de 5000 têtes, qu'on a un gros, gros industriel. Et ils ont interviewé un agriculteur qui avait là sa production. Et l'agriculteur nous expliquait qu'il n'était pas une entreprise industrielle, qui était donc une grosse entreprise. Il était une sur-industrialisation. Et lui, son job, c'était de récupérer des animaux qui produisent plus de 2 kilos par jour de viande supplémentaire, de poids, prise de poids. Quand chez nous, on est à 400-500 grammes. Voilà. Pour arriver à ces fins, ils utilisent le clonage, ils utilisent tout un tas de systèmes très pointus, d'une recherche très très poussée, qui permet d'avoir des animaux hyper productifs, ce qui est interdit en France. On n'a pas le droit de pratiquer cela, déjà. On n'a même pas le droit de pratiquer la méthode qu'ils utilisent chez eux. Dans la partie production, on s'est aperçu qu'ils avaient 80% des matières actives utilisées qui sont interdites en France. 80%.
Non, mais vous savez, on est nombreux, on va à Biocoop acheter des carottes parce qu'on est comme ça, au moins on est sûr qu'elles ont connu la terre. Non, mais il faut le dire quand même.
Mais c'est même plus que connaître la terre. C'est même plus que connaître la terre. C'est qu'on est arrivé à un tel niveau de différence entre ce que font tous vos agriculteurs français. Toute la France, même les grosses entreprises françaises, ce sont des petits jardins par rapport au reste du monde. C'est ça qu'il vous faut comprendre. C'est quand le décalage est tellement immense qu'on ne peut plus se comparer. Alors bien évidemment, nos coûts de production, nous tous, quelles que soient nos différentes façons de faire, ils sont pratiquement 3-4 fois supérieurs. Si j'achète un bœuf au Brésil, je le paye 1,80$ le kilo.
Ouais, j'ai des amis qui vivent au Brésil, mais voilà, qui est à 300, donc effectivement, c'est pas le même fonctionnement du tout. Quoi.
L'objectif de la mondialisation et d'ouverture du marché, en fait, ils ont mis 5000 tonnes de bœuf, pour parler du bœuf, c'est même pas les 5000 tonnes, parce que ça va représenter 2% en fait, de l'Europe en volume. Donc c'est pas ça. Ça va être le curseur qui va réguler le prix. En fait, c'est ce qui va permettre de réaliser le prix payé à l'agriculteur à la baisse. Aujourd'hui, on est sur une moyenne de 6 euros, tous les animaux confondus, entre voilà, les meilleurs et les moins bons. Là, on va tomber des animaux à 1,80€, 1,80€.
Et il y a peut-être aussi des domaines où il ne faudrait pas rentrer dans une recherche maximale de rentabilité, parce qu'on faudrait privilégier la qualité aussi, peut-être pas.
Qualité, c'est... Alors ça, c'est une difficulté qu'on a, parce qu'on a
on emploie le mot... C'est un choix de société, on produit massivement parfois des choses de mauvaise qualité, alors que c'est pas notre intérêt non plus.
Quand on dit qualité, c'est que la définition de ce mot-là n'est pas la même selon où vous vous placez.
Absolument.
Ouais. Et quand vous êtes dans le commerce, c'est la qualité, c'est que le papier qui va bien. Point.
Ouais. Carolina, tu avais une question.
Oui, tout à fait. Je voulais savoir, du coup, pour pallier, s'il y a l'approbation du Parlement européen sur le Mercosur, pour pallier à cet accord qui risque d'être voté, qu'est-ce que vous voudriez ? Est-ce que vous voudriez qu'il y ait moins de normes, ou est-ce que vous voudriez qu'il y ait retrouvé surtout un prix qui couvre le prix de revient et le risque ?
Non. En fait, oui, c'est ce que vous voulez, qu'il y ait moins de normes ou un protectionnisme aux frontières.
Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'en fait, au lieu de développer une agriculture européenne qui soit tournée vers la mondialisation, c'est de demander aux agriculteurs européens de produire pour les Européens. C'est un élément de base. On est déjà importateur de moitié.
Quand on parle en permanence d'empreinte carbone et de circuit court, il faut être un peu logique aussi.
Déjà, ça, c'est une réponse que le citoyen entendrait aisément et qui partagerait sans aucun souci. Après, l'Europe a développé ses conditions de production qui sont les meilleures au monde. Ça vous paraît bizarre, et on accuse toujours les agriculteurs de faire ci, de faire là, de traiter, de machin, mais on est quand même les meilleurs au monde, c'est nous qui avons les choses qui sont les plus responsables.
Après, il y a un problème qu'il faut quand même dire. Moi, j'ai des amis qui vivent en Amérique du Sud. Je me suis dit, écoute, est-ce que tu pourrais m'envoyer des produits d'Argentine ou du Brésil pour que je les vende en France ? Je ne parle pas forcément d'alimentaire, de manière générale, des maillots de foot, ce genre de choses. C'est tellement compliqué qu'on ne peut pas importer de produits d'Amérique du Sud. Donc je pense qu'il y a aussi une volonté qui servait aussi à ça, et là, on est tombé sur le point central qui est celui de l'alimentation. On va le dire, c'est ce point central qui pose problème.
Et justement, c'est le point central, et c'est ce que la coordination rurale défend depuis le début, c'est l'exception agriculturelle. C'est-à-dire que, comme la culture...
Ça peut s'entendre.
La culture, on voulait faire comme l'agriculture, l'agriculture comme la culture, elle est bloquée sur les marchés. C'est-à-dire que, et la chose, c'était de faire la même chose en agriculture, c'est une exception. C'est-à-dire qu'on ne négocie pas sur l'alimentaire. C'est-à-dire que si c'est défavorable à l'agriculture française, on le sort des traités. Le problème, il est là. Qu'on aille vendre des voitures, ou qu'on aille vendre des Rafales, ou qu'on aille vendre... Très bien. Mais on ne peut plus, on n'a plus les moyens, en tout cas, si ça a été vrai à une époque, ce qui est encore à prouver, on n'a plus les moyens que l'agriculture française soit une variable d'ajustement des traités internationaux. Et ça vaut pour le Mercosur, mais ça vaut pour le CETA, ça vaut pour tous les accords qui sont déjà en train d'être négociés, parce que le Mercosur, c'est un serpent de mer, ça va avoir 25 ans.
Il y a l'Inde qui arrive derrière.
Exactement, il y a l'Inde qui arrive derrière. Mais déjà, de dire qu'on est contre le Mercosur, c'est de dire attention au prochain. On ne veut pas que l'agriculture française soit une variable d'ajustement.
On peut importer des produits à 3$ chez Temu, chez Shein, etc., qui arrivent de Chine, et on n'arrive pas à importer un maillot de foot d'une équipe brésilienne. Il y a aussi ça qui a essayé d'être fait.
Mais moi, si le Mercosur, il est sur l'importation de maillots argentins, mais que ça ne m'impacte pas mon quotidien agricole, moi, ça ne me dérange pas. Mais qu'on ne mette pas dans la balance nos productions agricoles.
Et notre santé, ouais.
Et notre santé. Enfin, c'est tout un système. Et on vous parlait de l'Ukraine tout à l'heure. C'est exactement la même chose avec l'Ukraine. Avec l'Ukraine, on est en train, c'est un sujet un peu tabou, mais on est en train de payer la guerre, les agriculteurs français sont en train de payer la guerre ukrainienne. Parce que le blé, on a ouvert les frontières ukrainiennes, le blé, le poulet, les œufs, etc., ça rentre à plein bateau sans un droit de douane, on n'a pas du tout les mêmes coûts de production. Et c'est la même chose avec le Mercosur, on parle du Mercosur, mais l'Ukraine, on y est. Enfin voilà, le CETA, c'est pareil.
Carolina, tu voulais réagir?
Oui, je voulais savoir si du coup pour vous c'était incompatible que le, enfin, est-ce que vous considérez que le commerce international peut être compatible avec une agriculture plus durable? Est-ce que c'est pour ça que vous vous opposez au Mercosur?
C'est strictement impossible. Parce que si vous voulez, les décisions qui sont prises donc au sein de notre Union européenne et les décisions qui peuvent être prises dans les autres éléments, d'autres pays, les autres continents, sont complètement à l'opposé. Nous, on est dans une recherche d'améliorer les situations, autant sur l'agriculture, mais aussi sur d'autres secteurs, hein, l'environnement. Et quand vous regardez les autres continents, ils sont dans une recherche de profit. Donc il n'y a aucune possibilité, il n'y aura jamais un accord. Il va falloir des siècles et des siècles, on ne peut pas. Pendant que nous, on se bat ça, ils se battent pour récupérer du pétrole, ils se battent pour les minerais, ils se battent pour tout. Je veux dire que là, on devient franchement à côté du sujet. On ne pourra jamais. C'est pour ça que l'exception agriculturelle se pose comme un élément moteur et central dans le choix de la politique. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'on a une agriculture, qu'elle est ce qu'elle est, qu'elle alimente les Européens, au mieux. On fait des progrès, ça nous profite à nous tous. Le reste du monde, on ne le changera pas.
Alors après, ici, en tant qu'observateur, on remarque régulièrement que l'État cherche à limiter son nombre d'interlocuteurs. On l'a vu dans la formation, on l'a vu dans plusieurs secteurs d'activité. Est-ce que vraiment les décisions qui sont prises aujourd'hui ne sont pas en train de... Allez, on va débunker ce thème-là. Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de privilégier les gros? Et d'ailleurs, on se rend compte que les gros, très souvent, sont des investissements étrangers au détriment des petits.
Oui, fait. Ça c'est un sujet qui est délicat parce que
est-ce qu'on m'embête moi pour faire mon jardin et avoir mes poules alors que on va.
En fait, c'est une façon de mettre un peu les gens au pas. D'accord. Le gros permet de centraliser les choses et de faire que ce soit fermé, bloqué.
Il y a moins d'interlocuteurs.
Et le petit, un indépendant autonome, on va dire, avec une certaine autonomie qui lui permet d'agir et de faire, et ça dérange le pouvoir parce qu'il n'a pas la main dessus. Il ne peut pas le contraindre. S'il veut faire ses poules, s'il veut faire son petit jardin, s'il veut faire ci, faire là, et celui-là, il ne le maîtrise pas.
Alors le pouvoir, on le sent un petit peu démuni. On a quand même une ministre de l'Agriculture qui nous a dit il y a quelques semaines que malheureusement une nouvelle loi, c'est ici d'arriver en janvier à cause de l'Europe, et puis qu'il y avait une pénurie d'œufs parce qu'on avait du mal à faire des poulaillers. Vraiment, le gouvernement, là, à votre avis, est-ce qu'ils ont vraiment la compétence d'agir ou est-ce qu'ils sont tenus par Bruxelles, des accords, certaines choses
Je ne sais pas si, d'une, ils n'ont pas toutes les compétences parce qu'ils en ont donné beaucoup à Bruxelles, premièrement.
Oui, d'accord.
Et puis... c'est ce que le président de la coordination rurale nationale, Bertrand Venteau, avait expliqué. C'est qu'ils ne sont pas de mauvaise foi, les ministres. Quand ils ont rencontré le Premier ministre, ils leur ont expliqué le cas de la DNC, de la dermatose, etc. Et le Premier ministre a dit « Oui, effectivement, ouais, c'est assez logique ce que vous nous dites. » Et dans la foulée...
Il a quand même fallu aller voir pour qu'il y pense. Hein. Il aurait pu penser tout seul, quand même.
Il n'a pas que ça à faire, mais... Quand on lui explique clairement, voilà, très bien. Mais dans la foulée, qui est arrivé? Son directeur de cabinet qui lui a dit « Bah, vous savez, principe de précaution, et puis il faut faire attention aussi à ça. » Et le Premier ministre qui a dit à M. Venteau, il a dit « Bah, en fait, on peut pas. Hein. Bah non, ce que vous me dites, bah non, on pourra pas changer. » Donc en fait, le problème, c'est... Alors, les ministres, c'est une chose. Mais qui dirige vraiment dans les ministères? Est-ce que ce ne sont pas les directeurs de cabinet qui, quand les ministres sautent, ils restent?
Il y a un ange appelé État profond qui vient de passer.
C'est un peu ça. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'en fait, on peut parler avec des personnalités qui portent le message du ministère. Mais derrière,
il y en a
Le ministre, il dure 6 mois, alors que le responsable d'administration, il reste longtemps.
Les hauts fonctionnaires et tout ça derrière.
Et ça fait 40 ans que ce sont les mêmes qui y sont.
On entend parler aussi de souverainisme, de gens qui veulent sortir de l'Europe. Est-ce que la classe agriculteur, elle n'est pas en train de prendre un débat un petit peu nationaliste, là, protectionniste?
Sortir de l'Europe, ça va être compliqué, puisque le nerf de la guerre, c'est la monnaie, c'est l'euro. Et qu'en ayant pris l'euro, On ne peut plus frapper Monnet.
J'ai mal posé la question. Si on veut faire du circuit court de l'empreinte carbone et qu'on veut que nos magasins soient alimentés par des gens locaux qui ont nos critères de qualité, est-ce qu'il faut recentraliser nos prises de décision?
Voilà. Mais vos magasins locaux, ce sont déjà des grosses entreprises qui sont basées déjà à l'étranger.
Il y a des COP qui viennent maintenant, c'est vachement à la mode.
Mais même les COP, parce que nous, nos premiers ennemis, c'est les COP qui importent les produits de l'étranger.
C'est vrai, Biocop, tout ça et tout, c'est...
Mais tout le monde. Mais la COP est une organisation...
Magasin de producteurs au privilège.
COP, c'est une organisation collective.
Oui.
D'un ensemble d'entités, de personnes, de... Voilà. Mais ça ne vous protège pas d'une importation de quoi que ce soit. Si vous voulez acheter des produits à un agriculteur, adressez-vous à l'agriculteur ou à sa vente directe, il a lui.
Ah bah il faut les aider à faire de la vente directe. Voilà, il faut aller directement au producteur.
Il faut aller plus loin. Il faut que l'étiquetage ait une transparence parfaite par rapport à celui qui produit et non pas celui qui transforme. Mmh. Il est anormal qu'un produit traverse les frontières, il prenne le nom de l'Europe parce qu'il a eu un emballage fait en Europe. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça. Mmh. Nous, ce qu'on demande, c'est que ce que nous produisons soit strictement transparent aux consommateurs.
Oui, bien sûr. Les oranges de Californie qui vont être dépiautées au Vietnam, réduites en poudre en Argentine et vendues en France. Ça n'a aucun sens.
Vous aurez un beau logo français en mettant transformé en France.
Ben voilà, parce que l'étiquetage a été fait ici.
On mettra un petit drapeau.
Ouais. Oui, tout à fait.
Mais on est quand même d'accord que principalement, les acheteurs des exploitants agricoles français sont des coopératives. Est-ce que ce n'est pas aussi au rôle des exploitants de diversifier, de partir sur des zones un peu plus sécurisées comme du direct, des restos, des petits magasins plus locaux?
Alors, c'est l'habillage des jolis mots. Quand vous avez une exploitation, vous produisez des quantités, il faut faire tourner la boutique, vous avez souvent des salariés, vous avez
un gros... Ça, c'est général, hein. On n'est pas producteur et distributeur et commercial. Ce sont vraiment trois métiers très différents.
Vous venez en quelques secondes, vous voulez donner trois grandes branches, une qui est la production, l'autre la transformation, l'autre la distribution. On fait tout ce qu'on peut. On peut, à toute petite échelle, faire de la vente directe, 100%.
Oui.
Dans un Viti va vendre son vin, choses comme ça. Donc, un petit volume. Mais dès que vous commencez à monter dans les masses, vous êtes obligé de passer par un système. Parce que vous n'avez pas la force de frappe pour aller vendre toute votre production. C'est très compliqué.
Et c'est là où se pose la question de quelles sont les marges entre ces trois filières. Et c'est justement un gros problème, c'est que en fait la marge la plus basse et la plus écrasée, c'est toujours le producteur.
Et justement, est-ce que ça serait pas un modèle de pouvoir revoir un petit peu le modèle économique du fonctionnement d'une exploitation, pas pour tendre à une usine, mais justement, vous parliez des marges, effectivement, le producteur a des marges plus faibles. En revanche, s'il avait une partie qui consistait à la transformation, il pourrait avoir une gestion de ses prix et une marge un petit peu plus conséquente. Aujourd'hui, moi j'ai travaillé par exemple dans un syndicat patronal. Aujourd'hui, un chef d'entreprise, on lui demande de pouvoir diversifier, d'avoir un camembert assez diversifié au niveau de ses clients pour éviter que tout ne tienne qu'à un seul acheteur et pour pouvoir justement gérer ses prix. Est-ce qu'aujourd'hui, un agriculteur ne devrait pas voir ça sous ce prisme-là ?
S'il est en coopérative, il est déjà contraint par les règles de sa coopérative. Il va rentrer dans des obligations que la coopérative va lui imposer. On veut bien te prendre ta production. Mais en contrepartie, on prend tout, on lui laisse peut-être un volume qui peut se faire en vente directe, mais déjà, les lois sont écrites, toutes les règles sont faites.
Vous êtes tenu par
un système qui est hyper, hyper organisé dans la finance.
Ouais, ouais. Vous êtes tenu par les contraintes administratives, les contraintes techniques, les réglementations, les circuits de distribution.
On peut diversifier la production, mais si vous avez de l'élevage de canards, du porc, des vaches, c'est trois règlements différents.
Bien sûr. Florence Allien, Alain Quéral, Cyprien Dautefeuille, là, actuellement, le mouvement de protestation, il est fini. Vous avez obtenu ce que vous vouliez en 20 secondes, là.
Non, on n'a pas obtenu. Ils ont mis des rustines. Alors qu'il faut changer complètement de logiciel.
Bon, ça va faire comment? Vous allez attendre ou on va voir des tranchées dans les rues, là?
Je ne sais pas, mais plus le gouvernement va languir... Plus la pression montera.
Oui, c'est pas gagné.
Très bien. À tous les auditeurs, à la semaine prochaine. Carolina, à la semaine prochaine.
À bientôt.
Messieurs, merci d'être venus.
Merci à vous.
Merci à la suite des programmes sur RLP.
RLP Business.